Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8.
Ce mois-ci, nous vous présentons le roman La Résistante de Elizabeth Moon, publié aux États-Unis en 1996 sous le titre original Remnant Population et 3 ans plus tard en français aux éditions J'ai lu. Elizabeth Moon, née en 1945 dans le Texas aux États-Unis, a un parcours assez insolite pour une femme de sa génération. Diplômée en histoire, elle s'engage pour 3 ans dans le US Marine Corps en tant que spécialiste en informatique pendant la guerre au Vietnam. Elle se marie, reprend ensuite des études en biologie et travaille longtemps en tant que secouriste. Moon commence à écrire très jeune, mais ce n'est que vers 35 ans, quelques années après la naissance de son fils, qu'elle commence à le faire professionnellement. En 1986, elle publie ses premières nouvelles de science-fiction, 2 ans plus tard son premier roman. Aujourd'hui, elle a à son compte 3 recueils de nouvelles et 27 romans de science-fiction et de fantasy, la plupart des séries, dont une coécrite avec Anne McCaffrey. En science-fiction, Moon a surtout écrit ce qu'on appelle la SF militaire, donc des space opéras, des combats, des logiques militaires, avec, comme particularité, des protagonistes féminines. Seulement une partie de son œuvre est traduite en français, notamment la série Fantasy des familles régnantes, et ses 2 seuls romans indépendants en science-fiction, La vitesse de l'obscurité, qui est inspirée par l'expérience de son fils autiste, et La résistante, dont on vous parlera ici. À côté d'autres nominations et de prix renommés, Elizabeth Moon a reçu en 2007 le prix Robert A. Heinlein, qui récompense, je cite, « des ouvrages remarquables dans le domaine de l'anticipation scientifique ou technologique pour leur capacité à stimuler l'exploration de l'espace par les humains ». En 2010, Elizabeth Moon critique sur son blog le projet d'un centre commémoratif musulman à New York, pas très loin de Ground Zero, l'endroit où étaient situées les 2 tours du World Trade Center. Cette prise de position islamophobe provoque une controverse dans les milieux de la SF et son invitation d'honneur à la WISCON, une convention féministe de science-fiction et fantasy assez renommée aux États-Unis, est révoquée. Vous allez peut-être vous demander pourquoi on a choisi de présenter le roman d'une autrice certes féministe, pro-choix et anti-Trump, mais ne représentant pas moins l'Amérique blanche, anglicane et patriotique. Et à vrai dire, nous aussi, on s'est posé cette question.
Malgré que nous soyons très critiques de certaines positions et choix de l'autrice, nous avons choisi de vous présenter La Résistante, entre autres parce que nous avons été séduites par son personnage principal. En fait, Elizabeth Moon y raconte l'histoire d'Ophélia, une vieille femme assez impressionnante. Ophélia vit dans une colonie sur une planète n'étant a priori habitée par aucune espèce intelligente. La colonie appartient à une compagnie privée, la Simbancorp, et elle a été installée sur cette planète, partiellement terraformée, pour exploiter le bois exotique. La production de bois n'étant pas suffisante, les colons doivent déménager et vont être envoyés sur une nouvelle planète. Ophélia ne veut pas quitter ce monde où elle a vécu pendant 40 ans et auquel elle est liée par tant de souvenirs. Et en plus, vu son âge, elle est assez sûre de ne pas survivre au voyage et à la cryogénisation. Et du coup, elle décide de se cacher le jour de l'évacuation et de rester toute seule sur la planète. Elle va alors savourer la solitude et s'occuper seulement de elle-même, et elle va surtout arrêter de subir la pression sociale, etc. Et puis par hasard, elle va écouter les transmissions radio d'un groupe de colons envoyés pour créer une nouvelle concession à un autre endroit de la planète. Et elle va surtout les entendre se faire complètement anéantir par des indigènes. Une espèce intelligente qui vit sur cette même planète, mais qu'elle n'avait jamais rencontrée, et ce qui va pas tarder à changer.
La Résistante est un roman de science-fiction assez inhabituel. On se trouve sur une autre planète, dans une colonie humaine dont le seul nom est un numéro associé au nom d'une entreprise. On est donc bien dans la science-fiction, même dystopique au premier regard. Mais dès la phrase suivante, on n'en est plus si sûr.
La terre humide était fraîche entre ses orteils, mais la sueur perlait déjà à la racine de ses cheveux. Il allait faire plus chaud qu'hier. Avant midi, les belles fleurs rouges du journalière auraient replié leurs coupelles délicates aux senteurs d'épices et pendraient, inertes, à l'extrémité de leurs tiges. Du bout du pied, Ophélia tassa le paillis autour des plants de tomates. Elle aimait la chaleur.
Quand dans la SF, la production de bouffe est mentionnée, c'est habituellement pour décrire des procédés futuristes, hors sol, à l'aide de telles technologies ou plantes modifiées. Ou alors pour raconter les difficultés et pénuries après une guerre atomique, un cataclysme ou autre désastre. Les potagers abondants et pleins de fleurs, c'est plutôt rare. Et ici, la protagoniste Ophélia va passer énormément de temps à prendre soin des siens. L'autrice nous fait alors assister à toutes les étapes. Semis, arrosage, taille, paillage et récolte. Dans le même style, le récit est marqué par de nombreuses descriptions des choses du quotidien. La bouffe, la météo, le corps, les sensations.
Le tonnerre gronda. L'orage se rapprochait. Ophélia ferma les volets de la chambre qu'elle comptait désormais occuper, mais laissa ouverts ceux de la cuisine. Elle prépara le repas en gardant un œil sur l'extérieur, dans l'attente de la pluie et du vent. À leur arrivée, les saucisses étaient en train de frire dans la poêle avec des oignons, des poivrons et des pommes de terre coupées en rondelles. Elle versa le tout sur une galette qu'elle venait de faire cuire et, en portant son roulé, alla s'asseoir près de la porte pour écouter la pluie dans le jardin. Bientôt, le soir s'emplit de la présence sonore de l'eau. La pluie murmurait dans sa chute, tambourinait sur le toit, crépitait de la corniche sur les dalles du seuil, gargouillait dans les rigoles en s'écoulant vers le fossé. Toute une mélodie, beaucoup plus belle ici que dans la forêt. Ophélia termina son dîner et s'adossa au montant de la porte. Le rebond de l'averse sur le sol dur vaporisait de fines gouttelettes sur son visage et ses bras. Elle se lécha les lèvres. C'était plus rafraîchissant qu'une douche.
Cette manière d'accorder de l'attention aux détails, de marquer un temps d'arrêt pour prendre conscience des sensations, crée un fort ancrage dans le « ici et maintenant », ce qui n'est pas toujours le cas dans notre présent super connecté et souvent bien speed. À travers le personnage d'Ophélia, Elizabeth Moon raconte cette manière d'être connectée à soi-même, non pas comme un exercice de développement de soi, mais bien comme une manière de vivre tout entière. Cette manière d'écrire avec plein de détails produit aussi un rythme très long. Le récit avance doucement, l'intrigue se développe sûrement, mais par petites étapes, à l'instar du personnage d'Ophélia, vieille femme au corps endolori, qui est capable de faire plein de choses tant qu'elle les fait l'une après l'autre et à son rythme.
Son dos lui faisait mal, sa hanche se bloquait. Elle éteignit l'ordinateur et dut céder de la table pour se relever. Ce qui lui était pénible de bouger après être demeuré longtemps immobile. Cela lui paraissait incroyable de vieillir, de se sentir plus vieille. Et pourtant, elle souffrait encore plus de ses rhumatismes qu'à l'époque du départ de Bartow.
Le point de vue de vieille femme est très rare en science-fiction, voire dans la littérature en général. Elizabeth Moon le soulève elle-même lors d'une interview en 1999.
Il existe relativement peu de livres de science-fiction ou de fantasy dont le personnage principal est une personne âgée. Et en plus de ça, c'est une vieille pauvre, une femme de la classe ouvrière, ce qui la rend très différente. D'autres personnes, dont moi, ont écrit des livres avec des personnages principaux qui étaient vieux et riches. Ou vieux et brillants. Vieux sages, vieux sorciers, vieux riches. Ophélia n'est pas de cela.
L'autrice nous livre alors ce point de vue rare d'une personne infériorisée par tous les côtés. Aux yeux de son fils et de sa belle-fille, Ophélia n'est qu'une personne chiante avec ses bizarreries de vieille, tout juste bonne à s'occuper de la maison ou repriser les chaussettes. Pour la compagnie, Ophélia n'est plus assez rentable désormais, ce qui fait d'elle un poids mort inutile.
Elle venait de replier ses habits et de les ranger en piles bien ordonnées quand Bartho et Rosara rentrèrent à leur tour. Ils avaient un nouveau grief. « Ils disent que tu es trop vieille, » dit Bartho. Il la foudroya du regard comme si elle avait choisi son âge. « À la retraite, » renchérit Rosara. « Trop vieille pour travailler. » Ridicule, elle avait toujours travaillé. Elle travaillerait jusqu'à sa mort, comme tout un chacun. « 70 ans, tu n'es plus sous contrat, » dit Bartho. « Selon eux, ça va coûter cher de t'envoyer ailleurs et de toute façon, tu ne seras plus d'aucune utilité à la colonie. » Ce ne fut pas de la surprise qu'elle éprouva. Non, ce fut de la colère. Il la croyait inutile parce qu'elle n'avait plus d'activité, sinon tenir la maison, cultiver le jardin et faire la cuisine. « Ils vont débiter sur notre contrat, » dit Rosara. « On va devoir payer le coût de votre transport en vaisseau. » « Il y avait une garantie de retraite dans le contrat, » ajouta Bartho, « mais comme tu ne t'es pas remarié et que tu n'as pas eu d'autres enfants, tu en as perdu une partie. »
Mais c'est tout le contraire en fait. Ophélia est extrêmement courageuse et ingénieuse. Grâce à son âge et son expérience notamment, elle sait estimer et organiser ses forces. Elle sait se servir de plein d'outils, lire les données d'un satellite météo, s'occuper du maintien de la station de pompage et de la centrale électrique. Elle sait prendre soin d'elle-même, elle est moins naïve que les jeunes, elle sait ce qu'elle veut, elle n'a pas besoin de chercher à plaire, et elle trouve des stratégies pour affronter ses peurs. En résumé, Ophélia est un personnage assez badass, ce qui ne l'empêche pas d'être parfois un peu chiante sur les bords, mais qui ne l'est pas ?
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Grenoble et Radio Dragon avec Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous présente le roman La Résistante de Elizabeth Moon.
Dans La Résistante, lorsqu'Ophélia envisage de rester seule sur la planète, ce qu'elle ressent avant tout, c'est du soulagement.
28 jours, telle fut sa première pensée au matin. Je ne pars pas, dans 28 jours je serai libre, telle fut la seconde.
La liberté qu'elle acquiert en restant seule sur la planète, c'est déjà de faire les choses pour elle-même, de ne plus être au service des autres, en particulier de sa famille. Tout au long du récit, on va suivre son émancipation qui s'exprime à travers deux voix qui s'affrontent dans sa tête. L'ancienne voix, celle de la pression sociale et des normes, et la nouvelle, celle de l'émancipation, qui lui dicte aussi de rester sur la planète.
Ophélia resta assise devant la machine et ferma les yeux. Elle se sentait comme divisée. En elle, la petite voix inconnue ne cessait de répéter « Je ne pars pas, je ne pars pas ». La voix qu'elle avait l'habitude d'entendre continuait de parler du problème des boîtes en tissu. Ophélia était rompue au travail d'équipe. Elle connaissait bien la voix qui s'exprimait à sa place dans ces moments-là. L'autre voix ne lui était pas seulement inconnue, elle était étrange aussi.
Ces voix qui s'expriment dans sa tête décrivent bien le processus d'intériorisation des normes et montrent comment petit à petit, Ophélia y résiste, s'en détache, etc. En fonction des situations, l'une ou l'autre des voix est plus présente, marquant aussi l'état d'esprit de la narratrice, la culpabilité ou la confiance en soi, la honte ou l'espièglerie.
Elle en conçut des remords. C'est ta faute, Ophélia. Si tu avais pris la peine de jeter un coup d'œil hier, on n'en serait pas là. Tout ça par égoïsme, par entêtement, par vanité. Elle inspecta l'abreuvoir du parc, même si elle n'avait pas l'intention d'enclore d'autres bêtes. et il nota alors que sa voix intérieure évoquait celle d'Umberto, de Barto. Non, elle était plus âgée, et féminine dans sa colère. Mais Ophélia était trop lasse pour s'en soucier. Elle constata juste le retour de cette voix restée silencieuse depuis plusieurs jours. Dans ce processus d'émancipation, Ophélia retrouve aussi quelque chose qu'elle a toujours su, que l'utilité n'est pas le seul critère d'importance. Elle se permet alors d'être créative, de fabriquer de jolies choses, de porter des vêtements colorés et extravagants, chose qui était mal vue et réprouvée dans la colonie. Et le plaisir que cela lui procure est immense.
Elle tâcha de se rappeler à quand remontait la dernière réparation qu'elle avait effectuée. Elle aurait peut-être dû inspecter les maisons en détail tous les jours? Non, c'était impossible. Elle n'aurait plus eu le temps de jardiner, de coudre, de broder, ni de faire quoi que ce soit d'autre. Mais, dans cette lourdeur oppressante d'avant la tempête, sa voix ancienne n'eut de cesse de la harceler, de discourir sur le devoir et de souligner qu'elle n'avait pas besoin de tous ces jolis colliers de perles. Mais si, elle en avait besoin. Elle en avait eu besoin toute sa vie, sans le savoir. Cette joie de créer, de jouer, c'était le vide que ses devoirs sociaux et familiaux n'étaient jamais venus combler. Elle aurait aimé beaucoup plus ses enfants si elle avait compris à quel point il lui fallait elle-même jouer, obéir à ce désir enfantin d'avoir de jolies choses et de vouloir en créer d'autres.
Mais au bout d'un moment, cette analogie, selon laquelle les vêtements asymétriques aux teintures vives, le désordre et les couleurs donc, représenteraient la liberté, semble un peu trop simpliste. Comme quand elle s'émeut devant un souvenir d'enfance où elle s'était fait gronder par l'instit parce qu'au lieu d'ordonner les couleurs, elle les avait mélangées. Nous faire remâcher à maintes reprises que l'émancipation passe avant tout par la nudité et l'abondance de couleurs donne un ton un peu creux et redondant au roman. Personnellement, j'apprécie énormément les moments où je peux vivre nu, mais ça tout seul, ça ne va pas très loin dans la critique et ça sonne un peu New Age, retour à la nature, etc. Bref, pas très intéressant à la longue. Cela m'amène à une autre critique. Il est vrai que le roman La Résistante met en scène des gens ordinaires plutôt que des leaders héroïques. S'il parle bien de conquête de l'espace, il est question ici des pauvres qui fournissent la main-d'œuvre, exploitée par des entreprises qui sont celles à qui cette colonisation profite au final. L'autrice le dit elle-même dans l'interview citée un peu plus tôt. Mais à y regarder de plus près, ça m'a mis le doute. Certes, Ophélia et sa famille sont à la merci de la compagnie. Mais une fois qu'Ophélia se retrouve seule et qu'elle se libère des normes concernant son âge, son apparence et ses obligations sociales, matériellement, sa situation ne semble pas beaucoup changée, alors qu'elle a maintenant à disposition pour elle toute seule tout ce qui existe matériellement dans le village. Elle peut maintenant dormir dans un grand lit et enfin planter les graines qu'elle n'a jamais pu acheter à ses voisins, certes, mais en fait, elle mange bien, elle est logée correctement et ça n'a pas l'air d'avoir été différemment avant. C'est un peu comme si la pauvreté n'était qu'un concept d'oppression par des idées avant tout, sans avoir de répercussions matérielles. Dans mes petites recherches, je n'ai pas trouvé d'indication très claire sur l'origine sociale d'Elizabeth Moon, mais c'est sûr que le succès de ses livres a dû lui procurer une situation confortable par la suite. Sa manière de traiter la thématique de la pauvreté dans ce roman me semble superficielle. Comme une envie bourgeoise d'écrire sur un personnage pauvre, sans s'intéresser pour de vrai à ce que cela représente d'être pauvre et exploité.
Ophélia va donc vivre totalement isolée. Elle n'a pas peur de la solitude puisqu'elle va y chercher une sorte de libération et l'occasion de se concentrer sur elle, de faire ce qu'elle aime pour elle-même. Mais quand elle évoque l'idée, cela semble inconcevable. Et puis, Ophélia n'a pas peur de la mort, puisqu'elle sait qu'elle va mourir à un moment et qu'elle l'accepte bien. Elle n'a pas tellement peur d'être seule sur la planète, mais à un moment, elle se rend tout de même compte que certaines choses lui ont fait peur dans ce choix.
J'avais peur. Elle se rappela son cri, réprimé avec l'impression d'ingurgiter un fœtus mort. À présent, elle aurait pu explorer de mémoire le paysage de sa peur, mais n'en gardait aucun souvenir. À l'arrière-plan de son image mentale, la montagne se dressait, vague, menaçante, interdite. C'était mieux ainsi. « Ne remâche pas le passé », disait à l'envi sa mère. « C'est du temps perdu, c'est du papier, il vole au vent. » Elle parlait du mauvais, car elle estimait important et utile de se remémorer le bon dans ses moindres détails. Ophélia s'étendit de tout son long sur le lit dans le noir et procéda à l'examen de ses sensations. Sa hanche gauche la faisait plus souffrir que la droite. Elle avait les épaules raidies. Qu'il aurait été bon d'avoir quelqu'un pour les lui masser. Mais la peur avait disparu. Les machines fonctionnaient, les bêtes n'étaient pas toutes mortes. Sinon, elle aurait eu de quoi manger pour des années, de toute façon. Elle ne se sentait pas seule, au sens où on l'entend généralement. Elle ne s'était pas encore lassée de la liberté que lui apportait le fait de ne plus devoir répondre aux exigences des autres.
Ce désir d'écoute l'amène à l'envie d'écrire l'histoire de la colonie, sa propre histoire de la colonie. Un récit, plutôt qu'une suite de chiffres et de données administratives.
Qu'il n'y ait personne pour lui parler ne la gênait guère. Mais elle aurait voulu que quelqu'un l'écoute. Ce désir la ramena à la machine du centre et à ce registre, plein de données et vide d'histoire. Les écrire toutes était une gageure. Cela lui aurait demandé le restant de ses jours, sans espoir d'en venir à bout. Mais elle prit soin de garder quelques détails présents à la mémoire.
Elle est très bien placée pour raconter l'histoire puisqu'elle est arrivée au moment de l'installation de la concession, a participé à sa construction et reste après sa fin. Elle va donc, petit à petit, raconter l'histoire et notamment oser nommer des tabous, des choses qui ont été transformées et occultées, et particulièrement de nombreuses histoires de violences patriarcales.
En quête de repères, elle continua de parcourir le registre. Naissances, décès, transferts familiaux, maladies graves, blessures, tout était là, dénué de tout contexte. À lire, c'est Eurodis transféré de Kabota à Herr Stephanos. On aurait cru que la personne en question avait pris ses affaires et traversé la rue. Ophélia, en revanche, se rappelait les années de disputes qui avaient abouti au départ de Kara de chez Bota. Les enfants morts-nés, Costan qui l'accusait d'être une sorcière, elle qui accusait Costan de réserver sa semence à cette sale pute de Linda, la vengeance de Linda à son endroit qui avait coûté à la colonie ses derniers poulets. Rinaldo avait été le seul homme à oser accueillir Kara, que Costan avait chassée. Et quand elle était morte, 6 mois plus tard, personne ne s'était risqué à regarder de trop près comment quelqu'un qui tombe en avant peut se fracasser la nuque sur une pierre.
La colonie a en effet une organisation sociale tout à fait patriarcale et violente. C'est aussi dans ce contexte qu'Ophélia se sent libérée par le fait d'être seule. C'est dans cette solitude et cette vulnérabilité aussi que Ophélia va rencontrer les indigènes de la planète. Elle a peur d'eux et, ne faisant pas le poids face à leur nombre et leur force, elle accepte leur présence et choisit d'interagir avec eux.
Oui, l'intérieur de sa maison était sec. Mais elle et l'alien dégoulinaient d'eau. Elle s'essuya, puis tendit à la créature un torchon propre qu'elle prit et garda dans sa main en la regardant de ses grands yeux. En grommelant, Ophélia le lui reprit. Pire qu'un gamin. Il devait bien savoir qu'il était mouillé quand même. Il l'avait bien vu s'essuyer, non? Elle tendit le bras, lentement, et passa le tissu tout le long d'un des membres supérieurs de l'être, qui frissonna, mais se laissa faire. Elle voulut alors lui rendre le torchon, mais il ne le prit pas cette fois-ci. Et, en attendant, il continuait d'inonder son parquet.
Elle est assez infantilisante avec les indigènes, et en même temps, on comprend vite que ce n'est pas tant qu'elle les infantilise qu'elle ne se laisse pas faire. C'est une vieille femme qui en a vu plus d'une et qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds, ni perdre la tranquillité qu'elle a acquise en restant sur cette planète. Et c'est depuis cette position de vieille femme qu'elle s'autorise à exiger d'eux, par exemple, qu'ils nettoient le sol qu'ils ont mouillé.
Un être intelligent se construit un abri. C'est un des indices qui permettent de savoir qu'il est intelligent, justement. Qui aimerait se retrouver dans un cyclone sans protection, se faire emporter par le vent et tremper par la pluie? Bah, pas cela. À voir comme ils avaient accouru à la première occasion pour porter secours à leurs congénères blessés par la tempête. Ils avaient donc forcément des maisons, et il fallait quelqu'un pour les nettoyer. Ils auraient dû savoir comment s'y prendre. Ophélia alla de ce pas à la réserve sortir un lave-pont et un balai. Elle voulait bien leur accorder le privilège de la tuer, mais pas sans contrepartie. Elle traîna le tout jusque dans le couloir. Ils étaient restés là entre-temps, passifs. « Tiens !» Elle tendit le balai, l'un d'eux le prit. Elle tendit alors le lave-pont à un autre, il le prit lui aussi, tel un enfant qui n'aurait pas su qu'en faire. Elle le leur apprendrait, elle avait bien appris à ses enfants. Et il n'était pas question qu'elle devienne la boniche d'une bande d'extraterrestres.
Au cours du roman, Ophélia et les indigènes se comprennent de mieux en mieux, et au fil du texte, les lectrices en apprennent beaucoup sur l'organisation sociale et la culture du peuple de cette planète. Elizabeth Moon a imaginé une société vraiment intéressante, mais ce qui est dommage, c'est qu'à aucun moment ce peuple ne se nomme. Jusqu'à la fin du roman, les individus, comme le peuple, restent sans se donner de nom propre. C'est décalé, puisque l'idée était justement de décrire une espèce intelligente, et je trouve que ça montre quand même un esprit d'infériorisation. Chose que j'ai aussi sentie dans la manière de les faire parler dans certains chapitres écrits de leur point de vue. Même si cette écriture peut être expliquée par leur communication à travers la musique et les percussions.
Voilà, on espère bien avoir réussi à partager nos raisons pourquoi on a donné à ce roman une place dans notre émission, malgré tout un tas de positionnements et de choix de l'autrice que nous considérons comme vraiment problématiques. Quand nous avons découvert ce roman, nous ne savions pas grand-chose sur Elizabeth Moon, à part qu'elle avait un nom très classe pour une autrice de science-fiction. C'est en préparant l'émission que nous avons découvert son engagement militaire et ses propos islamophobes, mais aussi ses positionnements pour l'avortement et un article de 2014 où elle critiquait comment était traité dans sa paroisse l'assassinat par la police d'un noir, Michael Brown, et où elle exprimait sa compréhension et son soutien pour les émeutes qui avaient alors éclaté à Ferguson dans le Missouri. On ne pense pas que l'un excuse l'autre, l'un n'est pas la question, et il nous semblait important de visibiliser aussi ces côtés problématiques. Mais on voit bien que les personnes ont souvent plusieurs couches. Pour ne pas spoiler, on n'a pas beaucoup développé ce que l'autrice raconte sur la société alien, alors que sa capacité à inventer une société non humaine complexe fait certainement partie de ses couches plus intéressantes. À ce propos, dans une interview en 2019, elle évoque ses études d'histoire comme source d'inspiration et apprentissage pour prendre du recul sur sa propre culture.
Nous avons étudié les codes juridiques et les structures gouvernementales de la Grèce et de Rome, jusqu'aux périodes médiévales de la Renaissance. Ces études historiques, ainsi que les cours d'anthropologie que j'ai suivis en option, m'ont donné une idée des similitudes et des différences dans la façon dont les différentes cultures humaines considèrent le comportement, la responsabilité, la culpabilité, l'innocence, etc. Si vous inventez des cultures fictives, cela vous offre plus d'options que de simplement vivre dans votre propre culture. Tout le monde ne les considère pas de la même manière. Je le savais pour avoir grandi à côté du Mexique, bien sûr, mais l'étudier dans une zone géographique plus large et sur une période plus longue, avec davantage de cultures différentes, m'a beaucoup aidé. On arrive à la fin de cette émission où on vous a présenté le roman La Résistante d'Elizabeth Moon.
Ce roman de 380 pages a été nommé pour le prix Hugo du meilleur roman en 1997. Il a été publié en France en 1999 dans la traduction de Pierre-Paul Durastanti et de Bernadette Emery aux éditions J'ai lu.
L'émission est montée avec des bouts de musique du groupe stéphanois Mauvaise Surprise. Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. sur Radio Dragon et Campus Grenoble.